Alors, c'est l'heure de Mythes et Complots avec Christian Page. Non, je vais te refaire ça comme il faut. Avec Christian Page.
Mythes et Complots.
Dan Bigra qui chante du Backstreet Boys, ça aurait presque passé pour un mythe.
Un mythe et un complot, puis peut-être un film d'horreur, même je sais pas. Et c'est évident que je l'ai pas comme eux autres, mais mon band était solide. Ils jouaient, ça rockait, puis le monde dansait dans la salle. Écoute, j'en revenais pas. Moi, j'ai fait ça pour faire plaisir à Jordan, mais
ouais.
Je m'attendais pas à ce que ça fasse triper le monde comme ça. Ceci dit, vas-y avec nos vrais mythes et nos vrais complots.
Si je te dis, Dan, le nom de Amelia Earhart, est-ce que ça te dit quelque chose?
Pas aujourd'hui, parce que j'ai pas dormi. Lundi, ça marcherait.
Amelia Earhart, c'est l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'aviation.
Oui.
Donc, on revient un peu dans le temps, si tu veux, parce que tu vois, c'est une nouvelle très importante. Donc, on est en 1937, c'est l'âge d'or un peu du monde de l'aviation. C'est un monde d'hommes, mais il y a quelques femmes qui se distinguent, et parmi ces femmes, il y a cette Amelia Earhart. En 1937, elle détient déjà des records de vitesse,
des records
d'altitude. Elle est la première femme à avoir traversé l'Atlantique en solitaire. Un exploit qui avait été fait par Charles Lindbergh. Et elle, cette Amelia Earhart, on l'a même surnommée Lady Lindy, en souvenir de Lindbergh, puisqu'elle est la première femme à avoir traversé l'Atlantique. Et là, en 1937, elle annonce son grand projet, le projet de sa vie. Elle va faire le tour du monde à bord d'un avion. Elle a, pour faire cet exploit extraordinaire, parce que c'est amusant, parce que quand on parle de ça aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer à quoi pouvait ressembler cet âge d'or de l'aviation aujourd'hui. On monte dans d'énormes appareils.
Ça devient naturel,
c'est une seconde nature. On monte dans des avions comme on monte dans des voitures.
Mais c'est une découverte à ce moment-là. Et donc, une grande aventure à chaque fois que tu le faisais.
Une grande aventure. Et là, en 1937, Amelia Earhart dit, je vais faire le tour du monde avec un navigateur. On va suivre pour ce faire. Ils vont utiliser un appareil, un Lockheed Electra, qui a été spécialement aménagé pour avoir une plus grande quantité de carburant. Et elle va faire le tour du monde en suivant plus ou moins la ligne de l'équateur. Donc, le 20 mai 1937, elle quitte la Californie, fait quelques escales en se dirigeant vers la Floride. Et au tout début du mois de juin, elle quitte la Floride, destination Porto Rico, l'Amérique du Sud. Et ensuite, en suivant cette ligne de l'équateur, elle doit faire le tour du monde. Oh, jamais personne n'a fait ça avant elle et c'est une aventure excessivement dangereuse. La partie la plus dangereuse, et c'est celle qui va ouvrir la porte à l'énigme, c'est le dernier volet. Elle doit survoler la Micronésie. Donc, ce sont des centaines de petites îles perdues dans l'océan Pacifique. Et, en fait, elle doit partir de la Nouvelle-Guinée, et doit se rendre jusqu'à Hawaï. Mais on ne peut pas le faire d'un seul coup d'aile. Il faudra se ravitailler en chemin. Et à mi-chemin, entre Hawaï...
On ne se ravitaillait pas dans les airs dans ce temps-là.
Non, absolument pas. Donc, pour ce faire, on a spécialement aménagé sur une île inhabitée, l'île Howland, qui est administrée par les Américains. On a placé un bateau qui est là, un bateau des gardes-côtes, l'Itasca, et on a aménagé de manière de fortune un peu une piste d'atterrissage. Amelia doit s'y poser, elle doit remplir son carburant et ensuite regagner Hawaï. Donc, c'est très dangereux. Retrouver une île au milieu du Pacifique, c'est quand même pas facile. Et on n'a pas les instruments de navigation qu'on a aujourd'hui. Donc, elle quitte La Haye en Nouvelle-Guinée le 2 juillet 1937. Et le lendemain matin, donc elle vole pendant une vingtaine d'heures, et là, c'est le mystère qui apparaît. Donc, Amelia va contacter l'Itasca, qui mouille dans les eaux juste aux côtés de l'île Howland. Les communications sont bonnes. Les gens de l'Itasca reçoivent bien Amelia Earhart. C'est clair et fort. Elle dit, je devrais vous survoler, je ne vois pas l'île. Là, on commence à se gratter la tête parce qu'on a allumé un feu dans l'île et le panache de fumée devrait être visible à des kilomètres à la ronde. Elle ne voit rien. Et là, chaque fois que l'Itasca tente de communiquer avec Amelia Earhart, c'est peine perdue. Visiblement, elle ne reçoit pas les communications du bateau. Et là, elle commence à être de plus en plus inquiète. Elle se plaint des mauvaises conditions météo et elle est à la recherche du navire. Et puis, à un moment donné, elle dit « Je suis sur la ligne 157 » et c'est la dernière communication d'Amelia Earhart. Elle disparaît corps et biens. On va tenter, c'est la plus grande opération de recherche dans le Pacifique. Amelia Earhart était une amie personnelle du couple Roosevelt qui était à la Maison-Blanche. Donc, tu comprends qu'on s'est activé pour essayer de retrouver l'héroïne parce que c'est une grande héroïne américaine. Malheureusement, on ne retrouve rien. Après 2 semaines de recherche, on abandonne l'espoir de retrouver Amelia Earhart. Depuis, cette énigme de l'histoire de l'aviation n'a pas cessé de revenir sur le tapis. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et il faut savoir qu'immédiatement après la mort d'Amelia Earhart, bon, les recherches sont abandonnées. Et quelque part dans le Pacifique, il y a une petite île, l'île de Nikumaroro, qui à l'époque s'appelait Gardner Island, en 1940. Et là, je t'amène ailleurs complètement. Cette île-là, à l'époque, était un territoire britannique. Aujourd'hui, ça fait partie de l'archipel des Kiribati. Mais à l'époque, c'était une île qui était sous administration britannique. C'est une atoll. Hein. Les atolls, ce sont des îles formées de coraux. Et sa forme, c'est ou bien en forme de beignet, un peu, avec une lagune au milieu, ou en forme de fer à cheval. En 1940, les Britanniques ont tenté, cette île de Nikumaroro est une île inhabitée. Donc, on tente à ce moment-là d'installer une communauté sur l'île de Nikumaroro. On commence par défricher des arbres. Et là, en défrichant des arbres, on trouve 13 os d'un squelette, presque complet donc, dont le crâne. Et là, déjà, il y a une excitation parce que ça se trouve dans le secteur qu'aurait peut-être survolé Amelia Earhart. Les os sont envoyés aux îles Fidji pour une analyse. Et déjà, sur le bord de route de transfert, on dit, pourrait-il s'agir des os d'Amelia Earhart? Le médecin légiste, le docteur Oudless, qui analyse les ossements, et là, on parle de la médecine légale en 1940-41, lui, il dit, non, finalement, ces os sont ceux sûrement d'un insulaire naufragé qui avait à peu près 35-40 ans, de petite stature. Merci, bonsoir. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, les os sont perdus, tout ça. Mais en 2018... un médecin légiste de l'Université du Tennessee s'est dit, je vais me repencher là-dessus. Il a ressorti les comptes rendus de l'époque. On a perdu les os. Mais le médecin, le docteur de l'époque, le docteur Oudless, avait fait de bonnes mesures des ossements, les avait bien décrits. Et en refaisant ces calculs-là, on s'aperçoit que le docteur Oudless, en 1940-41, avait pas mal erré sur certains éléments. Et en refaisant ça, en appliquant les nouvelles mesures connues aujourd'hui qui sont utilisées dans le domaine de l'expertise médico-légale, le nouveau scientifique, le docteur Jones, Richard Jones, arrive à la conclusion, à 99%, que les ossements trouvés dans l'île de Nikumaroro en 1940 étaient bel et bien ceux d'Amelia Earhart. Donc, si ce sont ces os...
Est-ce qu'elle a survécu sur l'île?
Voilà, donc l'idée, c'est, on imagine le scénario, sont probablement voyant qu'elle était perdue, elle a survolé, et éventuellement, voyant une terre, elle s'est dit, c'est mon dernier espoir, elle a tenté un amerrissage avec son coéquipier, Fred Noonan, l'avion a probablement capoté sur l'océan, mais visiblement, elle a survécu, et elle aurait réussi à regagner l'île où elle aurait attendu des secours qui, malheureusement, ne sont jamais arrivés. Et là, voilà qu'on apprend, cette histoire-là est extraordinaire. Et là, la grande nouvelle, c'est que la semaine prochaine, des îles Samoa va partir un navire d'exploration sous-marine à la tête duquel se trouve nul autre que le docteur Robert Ballard. Robert Ballard, c'est celui qui a trouvé le Titanic en 1985, le Bismarck en 1989. Son navire, le Nautilus, est équipé de caméras sous-marines, d'équipements tout à fait sophistiqués. Et Robert Ballard a annoncé cette semaine, là, donc il se prépare à partir des îles Samoa vers l'île de Nikumaroro. Il dit, si l'avion d'Amelia Earhart se trouve quelque part dans les eaux qui mouillent l'île de Nikumaroro, soyez certains que je vais la retrouver. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on attend ça. Ça va faire l'objet d'un documentaire de 2 heures au National Geographic Channel pour cet automne. Donc, c'est extraordinaire. On attend les nouvelles avec beaucoup d'impatience.
Alors, quand je vous dis que Christian Page est passionnant, c'est parce que, encore là, des fois, je voudrais qu'on devrait ouvrir notre Facebook de temps en temps. C'est que là, ils viennent de nous ouvrir une chronique incroyable avec un nombre de données que je n'ai même pas compté. Il arrive avec 10 pages de notes. Il ne les a pas regardées une seule fois. Il fait tout en me regardant des yeux. Du début jusqu'à la fin. Alors, on reste avec Christian Page. Au retour, il va nous parler d'extraterrestres.
Les extraterrestres.
Après la pause. OK. Là, on est rendu dans la raison pour laquelle moi, je te fais venir ici. Je veux pas qu'on parle des extraterrestres. Je veux des bonhommes verts. Je veux tout ça, là. Mais je veux tout le package.
Là, je vais te parler des extraterrestres, mais des vrais. Donc, pas ceux de la culture populaire, okay, le petit bonhomme vert. Les vrais extraterrestres.
T'as trouvé les vrais, toi?
On les cherche. On les cherche beaucoup.
Okay, hein. La planète a essayé, puis on n'a pas trouvé encore.
Tu sais d'ailleurs qu'encore il y a quelques jours, la NASA a annoncé avoir découvert une super Terre. Hein. Elle est à 31 années-lumière de la Terre. Donc, si on regarde sur les distances dans le cosmos, là, c'est la porte d'à côté. Donc, à 31 années-lumière de la Terre, il y a une étoile.
Ça, on va le voir métro, en fait.
Ça prend 31 années à la lumière pour nous arriver.
À la vitesse de la lumière.
À la vitesse de la lumière, qui est, je te rappelle, 300 000 kilomètres à la seconde.
Oui.
Donc, quand on regarde cette
étoile... Ça prend un bon slingshot, c'est clair.
Quand on regarde cette étoile, nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui.
On la voit 30...
telle qu'elle était il y a 31 ans. Donc, ça prend 31 ans, ça devient... Donc, cette semaine, la NASA a annoncé, toujours dans son programme de recherche d'exoplanètes, et ça, c'est fascinant, parce que déjà, quand on regarde à la base, moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, on ignorait si notre système solaire était le modèle de base ou un modèle répandu. On savait qu'on avait un soleil, 9 planètes qui tournaient autour. À l'époque, Pluton avait encore droit de séance. Maintenant, elle était rétrogradée. Mais on ignorait si ça, c'était le modèle de base ou si c'était une exception. Et aujourd'hui, on sait que c'est un peu le modèle de base. On est à peu près à 4000 exoplanètes de découverte, donc des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles. Et évidemment...
Ouais, moi, ça me fait dire que c'est on fait des jokes avec les petits bonhommes verts puis tout ça, mais je trouve que, dans le fond, il faudrait être assez arrogant pour s'imaginer, un, qu'on est le centre du monde.
Et t'as tout à fait...
Et deux, qu'on est les seuls.
Mais t'as tout à fait...
Si on y pense juste logiquement.
Écoute, uniquement, là, si on regarde notre galaxie, la Voie lactée, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre, et on compte à peu près 250 millions d'étoiles. Pas de planètes. 250 millions d'étoiles. Supposons que la moitié de ces étoiles, il y a des planètes qui gravitent autour, 2, 3, 4 planètes. Tu t'imagines le nombre tout à fait, sans mauvais jeu de mots, le nombre astronomique de planètes. Et c'est justement, la NASA annonce cette semaine avoir découvert autour de cette étoile, qui s'appelle JGJ-357, avoir trouvé au moins 3 planètes.
Ils ne peuvent pas donner des noms romantiques à toutes les planètes rendues là.
Non, c'est sûr, on en manquerait. Et donc, cette planète, ce JGJ-357, c'est une naine rouge. On a découvert 3 planètes qui tournent autour grâce au nouveau télescope TESS, qui lui est spécialement équipé d'outillage pour pouvoir...
Je rappelle qu'il dit toujours ça sans notes. Il regarde même pas, il me regarde dans les yeux.
Donc, pour essayer de détecter des étoiles, ce que l'on fait, c'est on regarde la variation de l'étoile et on se dit, si une planète tourne autour, il y aura d'infimes variations dans la luminosité de l'étoile, et c'est comme ça qu'on peut savoir qu'il y a des planètes qui tournent autour. Et là, la NASA annonce cette semaine qu'elle a trouvé une super Terre, donc c'est GJ357D, donc une super Terre 6 fois plus massive que la Terre, qui se trouve dans ce qu'on appelle la zone de vie. Donc, si elle a une atmosphère assez dense, elle peut garder sa température et elle est assez proche de son étoile pour avoir de l'eau à l'état liquide.
Mais nous autres, on n'y sera pas très bien, parce que au lieu de peser 200 livres, je pèserais 1200 livres.
Ouais, voilà. Donc, on serait beaucoup plus lourd. Mais pesant, il y aurait de l'eau à l'état liquide, et c'est le premier critère pour déterminer s'il y a de la vie. À tout le moins, la vie que l'on connaît, la vie est basée sur un principe de carbone, hydrogène, oxygène, comme la nôtre.
Donc,
la vie carbonique existe, et on croit que c'est probablement la forme de vie la plus répandue, donc il est possible que cette étoile soit habitable. Et là où je vais en venir avec les extraterrestres, c'est amusant, parce qu'en même temps qu'on nous annonce ça, le programme Breakthrough Listen, donc c'est le programme d'écoute de messages radio dans l'espace.
On en a...
Voilà, tu sais. Voilà. Tu te rappelles, on en a parlé il y a quelques semaines.
Hey, tu y ressemblais pendant une seconde, tu m'as fait peur.
On en a parlé il y a quelques semaines. Le Breakthrough Listen, c'est un programme qui a été mis de l'avant par le milliardaire Yuri Milner à coût de 10 millions de dollars par année. Programme qui doit durer 10 ans et coûter 100 millions. Là, on en est à 3 ou 4 ans à peu près d'exploitation. Et le groupe a annoncé il y a quelques semaines, avoir écouté à peu près 100 d'étoiles qui se trouvent dans notre proximité, dans notre banlieue, et on n'a pas capté de signaux radio qui laisseraient croire à la présence de vie extraterrestre. Néanmoins, on se pose depuis quand même plusieurs décennies, est-ce que c'est vraiment les ondes radio qu'utiliseraient les extraterrestres pour communiquer? Déjà, nous, sur Terre, on commence à délaisser les ondes radio au profit des ondes lumineuses. La fibre optique, par exemple, on envoie de l'information par la fibre optique. Alors, on se dit peut-être que les extraterrestres utilisent de la lumière pour communiquer, et peut-être qu'ils utilisent de la lumière pour se propulser. On en parle qu'on pourrait utiliser des lasers.
Peut-être que même pour eux autres, la lumière est obsolète.
Peut-être. Mais là, Breakthrough Listen a annoncé qu'il s'associe avec le programme Gamma Veritas, qui regroupe un réseau de 4 télescopes avec des miroirs de 30 mètres de diamètre qui sont capables de détecter d'infimes réactions lumineuses à des centaines d'années-lumière de la Terre. Donc, ce système sera couplé à celui du Breakthrough Listen. Et donc, à partir du mois prochain, on va commencer à regarder les étoiles, mais non plus seulement à les écouter sur le plan radiophonique, si je peux dire, mais les écouter visité de manière visuelle. Donc, on l'appelle l'Optical City. City pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Mais optical, dans le sens, on va essayer de regarder. Donc, on vient d'ajouter un outil supplémentaire à notre recherche de vie extraterrestre.
On veut trouver. La question, c'est, est-ce que c'est une bonne nouvelle si on trouve? Parce que généralement, les civilisations plus avancées ont tendance à dévorer les plus petites.
Ouais, voilà. La trouver est une bonne chose. Communiquer avec elle en est une autre.
Oui, en est une autre. Parce que généralement, quand on trouve, l'autre nous trouve aussi. Pas certain de ça.
Exact.
Après la pause nouvelle, Luc Lavoie se joint à nous. À tout de suite.